Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé Jurassic en voie d'illumination, la saison 2 de la série Arcane et la stratégie de Disney dans la production culturelle française. N'hésitez pas à aller l'écouter. Pour la deuxième partie, nous continuons avec le tour de l'actualité culturelle, la littérature et l'architecture. Nous sommes toujours avec Hugo, Juliette, Maxime et Saphir. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Saphir, tu nous parles dans la rubrique des arts médiatiques du rôle de Disney+ dans le cinéma français. Disons-nous davantage.
Ouais, quand une plateforme américaine s'intéresse de près au cinéma français, bah généralement c'est pas par amour de la culture mais plus par amour du pognon. Et on va commencer par un élément assez central quand même dans cette histoire avec Disney+, qui va beaucoup faire parler d'ailleurs début 2025, c'est la chronologie des médias. C'est un terme qui paraît un peu obscur, mais qui désigne donc une règle assez unique au monde, hein, qui organise la diffusion des films après leur sortie en salle. En gros, imaginez donc une sorte de file d'attente où les chaînes et les plateformes qui financent le plus le cinéma sont placées en tête de cette file. C'est pourquoi Canal, qui investit environ 200 millions d'euros par an dans le cinéma français, peut diffuser des films seulement 6 mois après leur sortie. A l'inverse, Disney ou Netflix, qui investissent bien moins, doivent attendre entre 15 et 17 mois. Et pourquoi donc ce système ? Eh bien, il a été conçu pour protéger les salles de cinéma et garantir un financement pérenne aux films français. En imposant un délai, on évite que les spectateurs délaissent les salles au profit des plateformes. Mais ce système est aussi une incitation, puisque plus une plateforme investit dans la création française, plus elle peut diffuser les films rapidement. Mais pour des gens, donc justement, enfin, des géants plutôt comme Disney+, ce cercle vertueux est un obstacle, puisque ce délai de 17 mois leur semble incompatible avec les attentes des spectateurs et les enjeux du streaming mondial. La plateforme propose alors un plan que certains jugeront ambitieux et d'autres clairement pas, quadrupler sa contribution au cinéma français, passant de 13 à 55 millions d'euros par an. Donc concrètement, Disney+ est soumis comme toutes les plateformes à ce qu'on appelle le décret SMAD, hein, c'est un décret qui oblige en fait les plateformes à investir une partie de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans les œuvres européennes et françaises. Et jusqu'ici, Disney+ consacrait l'essentiel de cette obligation aux séries et aux autres contenus audiovisuels. Et seulement une petite part, environ 20%, donc au cinéma. Mais pour obtenir ce privilège, donc de diffuser des films plus rapidement, bah, Disney+ va devoir inverser en fait ses priorités et rediriger massivement ses investissements vers le cinéma, à hauteur de 80%. Un changement qui alarme déjà les syndicats du cinéma français, puisqu'ils craignent que cette réforme déstabilise un écosystème où chaque secteur a trouvé un certain équilibre. Alors, pourquoi c'est crucial pour Disney ? C'est pas qu'une question en fait de compétitivité, c'est aussi une bataille pour s'imposer comme un acteur incontournable du financement du cinéma français aux côtés ou à la place de Canal+. Après un départ fulgurant, Disney+ fait face aujourd'hui à un plafond de verre, hein, difficile de recruter de nouveaux abonnés, alors que le prix des abonnements augmente de plus en plus, il va encore augmenter de 2 euros prochainement en janvier. Et dans ce contexte, chaque détail compte. Un blockbuster comme Vanilla 2, qui cartonne actuellement au box-office mondial, est un atout énorme pour séduire certaines familles. Mais si ces films mettent plus d'un an à arriver sur Disney+, cela devient clairement un handicap. Le public perd patience et certains se tournent même vers le piratage. L'autre sujet, c'est l'importance du financement du cinéma français. Si Canal a joué un rôle crucial depuis des décennies, certaines rumeurs prêtent à la chaîne cryptée la volonté de réduire la voilure, passant de 200 millions d'euros par an à 120 millions d'euros. Disney pourrait donc compenser cette diminution, un argent qui est essentiel pour maintenir la diversité de l'offre, hein, des comédies populaires aux films d'auteur. Mais ces équilibres délicats sont désormais entre les mains des syndicats du cinéma, qui détiennent un rôle clé dans les négociations, avec une priorité, protéger la diversité et l'offre française, tout en garantissant un financement pérenne. Les plateformes américaines, aussi puissantes soient-elles, devront respecter ces conditions s'ils veulent avancer leur fenêtre de diffusion. Enfin, pour le spectateur, qu'est-ce que cela change ? Certes, une diffusion plus rapide des blockbusters Disney semble avantageuse, mais cette bataille pour les fenêtres de diffusion cache une question bien plus vaste. Comment préserver l'exception culturelle française face à ces bouleversements ? Une question qui concerne autant les créateurs que les spectateurs.
Vaste question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler justement de l'investissement des Disney+ dans le cinéma français et davantage dans le cinéma, un peu moins dans les séries ?
C'est qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui. On a le patron de Canal qui a donné une interview il y a quelques semaines où il disait que les producteurs de films français devront maintenant être un peu plus sélectifs dans leur scénario, puisque Canal ne financera plus tout désormais à ce niveau-là, ce qui est quand même un véritable danger, puisque ça voudrait dire que Canal va peut-être privilégier les grands films du box-office et moins les films d'auteur. Et donc, s'il y a moins de sous, il y aura moins de films. S'il y a moins de films, il y a une diversité qui se retrouvera réduite. Et ça serait quand même vachement dommage quand même pour l'exception culturelle française de se retrouver avec une offre qui soit un peu moins diversifiée. Quoi.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui veut privilégier le patron de Canal?
Les films à gros succès, clairement, le box-office. Et l'idée, c'est aussi d'investir beaucoup moins. Actuellement, Canal+ finance à peu près 200 millions d'euros par an. Là, il passe à 120. Et ça ne serait pas étonnant que dans quelques années, ils veulent passer à 80, voire même 50 millions d'euros par an par mesure d'économie.
Et c'est qui le patron de Canal?
Maxime Saada.
Ok.
Qui est le grand patron de Canal, ça reste quand même Vincent Bolloré.
Voilà.
Ouais.
Bon, du coup, ouais, on va pas avoir des super films hyper engagés.
Quand on regarde le calcul, on passe de 200 à 120 côté Canal+, et on passe de 13 à 55 côté Disney. C'est sûr qu'il manque quelque chose, effectivement, dans la balance. Qu'est-ce que ça vous dit un peu autour de la table, Hugo?
Alors, moi, déjà, je trouve ça bien qu'il y ait la chronologie des médias en France. Alors, je sais qu'elle avait déjà subi quelques modifications justement à cause du pressing, enfin de l'influence des plateformes. Et je trouve ça intéressant que Disney choisisse de s'y soumettre, donc de payer plus pour faire ça. Même si on pourrait toujours critiquer un peu plus, hein, sur un côté un peu sur le côté, en disant que certes, elle va donner plus, mais derrière, elle ne paye pas non plus trop tous ses impôts. Et justement, cette critique de ses impôts, moi, je la diffuserai aussi pour Canal, puisque Bolloré, il a fait en sorte de moins payer d'impôts. J'ai vu passer des articles qui disaient qu'il allait payer pas beaucoup d'impôts sur Canal+ et tout. Et c'est un problème, surtout si Canal+ décide de se désengager, sachant qu'en plus Canal+ est donc acheté par Bolloré, qui est un homme d'extrême droite. Et si Canal décide de ne plus tout financer et de faire des choix, et ben peut-être que l'arrivée de Disney est peut-être une bonne chose, mais ça peut aussi passer de la peste au choléra.
C'est sûr, c'est sûr. Juliette, toi, est-ce que t'as une réaction par rapport à ça, en dehors de la question que tu as posée, qui était pertinente d'ailleurs?
Ouais, bah, ça va pas être très très marrant, mais t'as parlé de beaucoup de millions d'euros.
J'ai eu l'impression d'être sur BFM Business, là, sans déconner.
C'est juste que, alors, j'adore la culture, c'est littéralement mon métier, je veux faire que ça, et je ne consomme quasiment que de la culture, mais j'ai quand même conscience qu'il y a tellement de trucs importants avant la culture, ouais. Quoi. En termes de millions d'euros, on met tellement d'argent dans des... Et en plus, là, pour des personnes qui vont privilégier des blockbusters avec très peu de fonds, et en plus très peu de fonds, avec peu d'engagement, et du coup, j'imagine qu'il privilégiera pas les minorités ni de genre.
Ouais, les cinémas d'auteur, c'est ce qu'on disait, les cinémas à petit budget, quoi.
Et par ailleurs, Canal donc quitte la TNT très prochainement. Ouais. Hein, ils ont demandé à l'Arcom, pardon, de pouvoir sortir donc de la TNT.
Donc en même temps que C8.
En même temps que C8.
Alors, tiens.
Ah, Bolloré.
C'est le prétexte officiel.
C'est okay. Le prétexte officiel, voilà, pour vraiment donner une cohérence à la couleur.
La raison officieuse, c'est que Canal a fait son entrée en bourse, en fait, lundi dernier, à la Bourse de Londres, oui. Et même pas à la Bourse de Paris. Et pour pouvoir convaincre les investisseurs, justement, bah, ils veulent absolument réduire la voilure et faire un maximum d'économies. Bref, le capitalisme, quoi.
D'ailleurs, j'ai calculé, le passage de 200 à 120, ça fait une diminution de 40% du budget, enfin, des investissements.
C'est absolument énorme.
Quand même. Maxime, toi, une réaction par rapport à l'investissement des Disney Plus dans le cinéma? Est-ce que tu regardes le cinéma?
Oui, bah oui, bien sûr. Enfin, vite fait, ouais, quoi. Ouais. Enfin, si, bien sûr.
Est-ce que, d'ailleurs, j'avais une question, c'était, est-ce que chacun, est-ce que vous êtes abonné à une plateforme genre Disney Plus, Netflix, Canal Plus? Ouais, Saphir, oui, tu dis oui. Maxime? Non, pas du tout.
J'ai un bouquet Free chaîne Énergie.
Parfait, voilà. Super, trop bien.
Ce qui me permet d'avoir TV Braise. C'est cool, hein, TV Braise.
Mais d'ailleurs, la fiction bretonne.
Et vive la Bretagne.
Et il y a la fiction française, c'est vrai.
Ah. C'est Juliette
vrai. Bah, j'ai des codes de potes, oui, du coup, je consomme énormément, mais je ne paye pas en soi à mon nom un truc. Ouais.
D'accord, bah, c'est bon que tu regardes quand même.
Moi, c'est à peu près pareil, c'est mes parents qui payent le truc et je suis sur le compte. Il y a ma sœur qui a Amazon Prime et pareil, j'ai son compte.
Ok, très bien. Merci à tous les quatre autour de cette table et merci Saphir pour cette information qui était très journalistique pour cette émission. Et tout de suite, le tour de l'actualité culturelle.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Le site de la rue Léon de l'Institut des Cultures d'Islam accueille l'exposition L'Esprit du Geste. L'exposition regroupe différentes techniques et différents savoir-faire liés à une diversité de traditions ancestrales, au programme peinture, sculpture, tapisserie, entre autres. Ici Léon, c'est 19 rue Léon dans le 18e arrondissement. C'est accessible via la station Châteauroux sur la ligne 4 du métro.
Gilbert Père revient à la Halle Saint-Pierre, l'électro-mécano-maniaque nous propose cette fois des sculptures en tout genre, un peu de bricolage et un peu de technologie dans ses différentes œuvres. La Halle Saint-Pierre, c'est 2 rues Ronsard dans le 18e arrondissement. C'est accessible via la station Anvers sur la ligne 2 du métro. Révélation art contemporain du Bénin et l'exposition actuellement à la Conciergerie, un événement qui mêle les arts. Pour en savoir plus sur l'histoire de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, la Conciergerie, c'est 2 boulevards du Palais au cœur de l'île de la Cité. C'est accessible via la station Cité, via la ligne 4 du métro. Le Lac des Cygnes revient à Paris en 2025. Le célèbre ballet pose ses valises pour 3 jours au Casino de Paris. Les représentations auront lieu du 20 au 23 février. Le Casino de Paris, c'est accessible à la station Saint-Lazare via les nombreuses lignes qui desservent la célèbre gare. Sur France 5, le lundi 23 décembre à 13h, je vous propose de regarder des trains pas comme les autres. Philippe Googler vous emmène à la découverte de la Norvège, un avant-goût de Noël et de l'hiver. L'émission est aussi à retrouver sur la plateforme France.tv. Snoop Dogg et Dr. Dre proposent un nouvel opus commun. Son titre est Missionary. Il est composé de 16 titres et est sorti le 13 décembre dernier. Je vous conseille vivement de l'écouter, notamment sur les plateformes de musique à la demande. Au rayon littérature, je vous propose le livre Une locataire si discrète. Il s'agit du premier polar de Clémence Michalon. Au programme, un homme apprécié de chacune et chacun, mais au fond, un tortionnaire. Une locataire si discrète, un livre paru aux éditions Fayard. Dans les salles obscures cette semaine, le nouveau film du Canadien Matthew Rankin appelé Une langue universelle. C'est un film écrit pendant le confinement. Ce long métrage est aussi inspiré de films iraniens. Pourquoi ? Matthew Rankin est passionné du cinéma iranien. Le fil rouge de ce film, un billet de banque. Ce n'est pas banal et décané, je le vous le conseille fortement. Flint, Treasure of Oblivion est sorti le 14 octobre dernier. Ce RPG, Role Playing Game, soit un jeu de rôle, se place dans le contexte de la piraterie. Il est disponible sur PC, Xbox et PS5. Et enfin, dernière info, So Timeless est le titre de l'exposition de la 17e édition de la Transgalerie. Cet événement est porté par le salon So BD. Ça se passe à la galerie Cecilia F, 4 rue des Guillemites dans le 4e arrondissement. L'entrée est libre. C'est accessible par les stations Hôtel de Ville et Saint-Paul via les lignes 1 et 11 du métro.
C'est dans l'art.
Sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas demandé une fois, mais deux fois, Juliette. Juliette, dans la catégorie littérature, tu nous parles du dernier livre de Salomé Sacquet.
Eh oui, c'est encore moi. C'est parce que Fabrice veut faire croire qu'il invite plusieurs femmes dans son émission. T'es sexiste, Fabrice. Non, allez, en vrai, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle Résister, écrit par Salomé Sacquet. Donc, il est sorti le 16 octobre 2024 dans le contexte que vous connaissez. Mais petit rappel, si vous nous écoutez en 2040 et que l'espèce humaine existe encore, le 16 octobre signait plus d'un an de génocide à Gaza, une grande montée du fascisme en France et en Europe, un rassemblement national complètement banalisé, et j'en passe beaucoup puisque nous n'avons pas la semaine. En tout cas, c'est dans ce contexte que Salomé Sacquet a écrit Résister, son nouvel essai paru aux éditions Payot. Salomé Sacquet a 29 ans, elle est journaliste et dirige la section économie depuis 2021 sur le média indépendant Blast. Elle a couvert le mouvement des Gilets jaunes pour Le Vent se lève, travaillé pour France 24, et je ne peux malheureusement pas écrire tout ce qu'elle a fait depuis le début de sa déjà longue carrière, puisqu'il n'y aurait pas assez d'encre dans l'imprimante de la radio et je risquerais de me faire rouspéter. Mais je peux vous dire que Résister n'est pas son premier livre. En 2022, elle écrivait Sois jeune et tais-toi, paru également aux éditions Payot. Une enquête fouillée qui pulvérise les clichés sur la jeunesse et appelle à la coopération entre les générations pour faire face aux grandes crises de notre époque, décrivait le magazine Mademoiselle. L'essai qu'elle sort cette année est qualifié comme radical, extrême, alors qu'elle défend seulement l'idée de garder une France démocratique, de lutter contre le racisme et toute forme de xénophobie. Ce que je ne trouve pas très radical, mais plutôt normal. Sa posture politique lui vaut la nouvelle insulte qui est militante d'extrême gauche, qui est une insulte que j'adore, soit dit en passant. Insultez-moi d'extrême gauche, je vous en prie. Alors bon, ça se voit pas à la radio, mais j'ai mis des guillemets sur le mot insulte. Et donc bien d'autres se font qualifier de la sorte, soit tous les gens qui sont contre les idées d'extrême droite. Pour Salomé Sacquet, la neutralité journalistique n'existe pas. Présenter l'extrême droite comme un danger, ce n'est pas neutre. Banaliser l'extrême droite, ce n'est pas neutre. Ne pas vouloir en parler, ce n'est pas neutre non plus. Elle écrit que la montée de l'extrême droite dans le monde ne se remarque pas uniquement dans les urnes ou sur les plateaux télé, malheureusement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je la cite, « Depuis la reprise de Twitter par Elon Musk, des dizaines de milliers de comptes néo-nazis et complotistes ont été rétablis, entraînant une hausse des insultes homophobes de 40%, des insultes antisémites de 60% et les insultes racistes ont explosé de près de 200%. Elle écrit aussi que la menace de l'extrême droite et les attentats déjoués sont la deuxième préoccupation du ministère de l'Intérieur après la menace dite islamiste. Une dizaine d'attentats de militants d'extrême droite ont donc été déjoués depuis 2017, ce qui n'a pas alerté beaucoup de médias, surtout ceux que possède le milliardaire Vincent Bolloré. Un hasard sûrement. Cela lui fait peur de constater... pas à Vincent Bolloré, à Salomé Sacquet. Cela lui fait peur de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes et beaucoup de médias considèrent l'extrême droite comme un courant politique comme les autres, sans rappeler son histoire et son contexte de création, et favorisent donc la dédiabolisation et banalisation des propos de l'extrême droite dans les médias et donc dans le débat public et les conversations entre amis et famille. Elle nous donne non pas la marche à suivre, mais des conseils, des idées de comment militer chacun à son niveau par nos actions citoyennes du quotidien. Les choix de nos achats, de l'information que l'on consomme, parce que d'après Salomé Sacquet, cela façonnerait le pays dans lequel on vit. Je ne vous en dis pas plus sur le contenu du livre afin que vous aussi vous le lisiez et en fassiez votre propre interprétation. Je tenais juste à souligner un truc qui m'a frappé, le prix du livre. Il est à 5 euros et c'est rare de trouver aujourd'hui sur le marché des livres neufs un prix aussi bas. Pour celles et ceux qui ne sont pas des grands adeptes de la lecture, il ne fait que 150 pages avec les notes et environ 120 pages hors notes. Et pour celles et ceux qui ne sont pas non plus adeptes du monde politique, sachez que ce livre est très accessible. Pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire un mot sur deux pour y comprendre quelque chose. Vous n'avez donc aucune excuse pour vous l'offrir à Noël, ainsi qu'à toute votre famille. PS, petite astuce d'un mini-acte militant à faire quand vous croisez une librairie, une FNAC, un Gilbert Joseph ou même un supermarché, c'est de placer le livre de Salomé Sacquet juste devant celui de Bardella afin d'éviter les cauchemars. Livre qui, je le rappelle, a été vendu à plus de 25 000 exemplaires en 48 heures. L'heure est grave, l'heure est à la lecture de Résister de Salomé Sacquet. Merci à toutes, c'était ma manière à moi de résister.
Merci Juliette pour cette recommandation. À titre personnel, ma librairie l'a mis gentiment devant la devanture de la caisse et j'ai réussi à l'acheter il y a une dizaine de jours. Je ne l'ai pas encore lu à titre personnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire ?
Le prix déjà, je ne vais pas vous mentir. Voir un truc, un livre à 5 euros sur des sujets qui m'intéressent, c'est rare. Genre, même des auteurs que j'aime beaucoup, que je trouve assez engagés, ils font quand même au prix le plus bas qui est 12 euros. Et donc là, 5 euros, bon voilà. Bon, ça, pour le prix, voilà. Puis Salomé Sacquet, je suis assez attachée à elle depuis qu'elle a sorti Sois jeune et tais-toi déjà en 2022. Parce que, bah, évidemment, ça m'a beaucoup parlé, j'ai 23 ans. Et puis même, j'aime beaucoup, enfin, j'aime tout ce qu'elle fait sur Blast. J'écoute beaucoup de podcasts avec elle, j'aime beaucoup sa personnalité. Et du coup, là, enfin, qu'elle sorte un petit bouquin comme ça, dans la période dans laquelle c'était, en plus, je me suis dit, c'est nickel, c'est ce que j'ai besoin, c'est ce dont j'ai besoin maintenant tout de suite, quoi.
T'as lu Sois jeune et tais-toi ?
Ouais.
Ok, d'accord. Mmh. Autour de la table, petit sondage, autour de la table en régie aussi. Qui a lu Sois jeune et tais-toi ? On est deux, donc avec Juliette. C'est bon à savoir. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé là ? Est-ce que vous avez envie de lire Résister de Salomé Sacquet, Hugo ?
Alors oui, mais j'avais déjà envie de le lire avant, puisque pareil, je connaissais, je suivais pas mal ce que faisait Salomé Sacquet avant, avant Résister. Je la suivais notamment sur Blast, parce que bah, je fais des études d'économie, donc j'aimais bien aussi voir un peu le côté médiatique de l'économie et même. Je trouve que pareil, c'est une personnalité très intéressante, très importante. Elle dit, bah, on l'a décrit comme militante et tout, alors que pas du tout. Genre, suffit de voir un peu en Belgique où là, il y a en Belgique francophone, hein, où il y a un cordon sanitaire contre l'extrême droite, où les positions de Salomé Sacquet, elles sont. En fait, la neutralité, c'est la neutralité de l'ordre établi. Donc, la neutralité n'est pas neutre.
Comme on dit à Strasbourg, c'est bien de temps en temps de regarder de l'autre côté de la frontière. Maxime, toi, ça te parle quoi ?
Ça donne envie de le lire,
ouais.
Parce que c'est bien de rappeler qu'il y a effectivement une banalisation de l'extrême droite, que Jordan Bardella est montré comme un candidat politique comme la gauche ou la droite il y a 15 ou 20 ans, enfin, et qu'il ne faut pas oublier d'où il vient, il ne faut pas oublier ce qu'il dit, et que je trouve ça assez dangereux
que ce
soit banalisé.
Il ne faut pas oublier ce qu'il dit, ouais, effectivement.
Voilà, il faut la racine de ce qu'il dit, enfin voilà ce qu'il y a derrière, et que... Pas parce qu'il est bien coiffé, qu'il a un beau costume, qu'il n'est pas dangereux.
Complètement, ouais. D'ailleurs, je t'en remercie, Juliette, d'avoir dit quand même 25 000 exemplaires vendus en 48 heures. Mmh. Ça, je trouve que ça traduit quelque chose de l'époque, de ce qui se passe en ce moment. Mmh. Et c'est quand même relativement dangereux quand on regarde quand même les valeurs portées par le Rassemblement National. Toi, Saphir, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. J'ai... Rien à ajouter, mis à part que c'est absolument déprimant quoi, au niveau de la situation politique française, européenne et même mondiale, j'ai envie de dire. Donc,
C'est ça.
Tu m'as convaincu pour l'acheter, mais...
mais ouais, allez-y, c'est quand même 5 euros, c'est accessible, les mots sont accessibles aussi. C'est un petit format, hein, c'est un format avec du papier, ça se met juste absolument partout. Ça se lit assez rapidement. Et puis, en fait, je pense aussi qu'il faut avoir conscience aussi du monde dans lequel on est, parce que c'est quand même un monde encore plus instable que ce qu'on a pu connaître un peu avant. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi lâcher, il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas abandonner. Il y a des initiatives qui sont faites à l'échelle locale, à l'échelle globale, à l'échelle internationale. Donc, il faut avoir tout ça en tête. Et c'est pour ça que je vous recommande très fortement Résistance. Résister, le dernier essai de Salomé Sacquet qui a été publié le 16 octobre dernier aux éditions Payot. Vous écoutez C'est dans l'art sur Radio Campus Paris 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art
sur Radio Campus Paris.
Et c'est le moment de parler architecture avec Maxime. Bonsoir Maxime. Rebonsoir Maxime.
Rebonsoir Fabrice.
Alors, de quel bâtiment vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, Fabrice, je suis allé au château de Versailles pour découvrir...
Non, Maxime, trop connu.
Bon, je suis allé au Louvre à Paris afin de découvrir...
Trop connu.
L'Arc de Triomphe ?
Trop connu.
La Tour Eiffel ?
Tu te fiches de moi.
Le transformateur électrique du 15 avenue Jules Ferry à Vierzon ?
Excellente idée.
C'est vrai ?
Bien sûr que non !
Bon, eh bien, je vais vous parler du 145 rue Lafayette à Paris.
Et qu'est-ce qu'il y a au 145 rue Lafayette à Paris, Maxime ?
Un immeuble haussmannien de la fin du 19e siècle, début 20e, de 5 étages, avec 4 fenêtres par étage d'environ 7 mètres de large. L'immeuble, hein, pas les fenêtres. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Cet immeuble se fond parfaitement dans le paysage de la rue, entre deux autres immeubles haussmanniens. Et pourtant, une chose frappe lorsqu'on s'approche de ce bâtiment. Il n'a pas de boîte aux lettres. Et je m'adresse à vous, toutes et tous autour de la table. Selon vous, pourquoi ?
Parce qu'il n'a pas de locataire.
Il n'y a pas de locataire, en effet. Pourquoi ?
D'accord. Pourquoi il n'y a pas de locataire ? Parce que ce n'est pas une vraie adresse ?
C'est une bonne réponse. Ce n'est pas une vraie adresse.
Non, déjà, mais je voulais jouer.
On n'a même pas pu jouer.
Et pourquoi c'est pas une vraie adresse ? Excusez-moi. On peut continuer à jouer.
Parce que cette maison n'existe pas.
Elle existe, cet immeuble il existe. On peut le voir quand on va au 145 rue Lafayette.
Elle n'est pas enregistrée au cadastre ?
Si.
Ok.
C'est un bâtiment qui sert à un autre chose que y loger.
En effet, c'est un bâtiment qui sert à autre chose qu'y loger.
C'est un logement vacant où on pourrait mettre les 330 000 SDF.
Non, malheureusement non. Ah,
c'est un truc militaire.
Non plus.
Ah, bonne question.
On ne peut même pas rentrer dans l'immeuble.
Mais aucune idée.
Ok. Allez, Maxime.
Alors, je vous donne la réponse. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'aucun particulier ni aucune société ne réside dans cet immeuble, dont l'intérieur a été détruit à la fin des années 70. Non. Seule la façade a été conservée. En réalité, cet immeuble n'est qu'une façade. Il y a bien un balcon, des fenêtres, une porte, mais ce n'est qu'une façade, comme un décor de film.
Mais Maxime, est-ce que cela a un rapport avec la création de la station de métro Châtelet-Léal à la fin des années 70.
Mais oui, Fabrice, tout à fait, comment le sais-tu ?
Oh, je ne le savais pas, je ne fais que lire le texte que tu m'as écrit d'ailleurs. Tu peux me faire dire n'importe quoi, comme par exemple, hier j'ai voulu acheter des biscottes de brioche. Mais comme il n'y en avait plus, j'ai acheté des sans sel, puis je reprends quoi ? Mais quoi ? Un gazebo ?
C'est quoi un gazebo, Fabrice ?
Je sais pas, Maxime. C'est toujours toi qui as écrit ça.
Donc, très juste. Donc, dans les années 70, lorsque l'immense trou des Halles est creusé afin de créer la nouvelle station de RER en plein Paris, la RATP avait besoin de créer des extractions d'air, notamment pour le tunnel de Châtelet-Léal à Gare du Nord. Cette extraction fait donc la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Il avait été décidé de conserver la façade pour l'harmonie du paysage de la rue. Donc la façade cache une immense cheminée. La façade a été ravalée en 2014. Avant, elle était passablement noircie et les fenêtres étaient ouvertes en permanence avec des rideaux derrière, comme une mise en scène.
Mais alors, est-ce que cet étrange immeuble est-il le seul à Paris ?
Non, Fabrice, d'autres immeubles sont dans le même cas. Partiellement ou totalement, comme le 3 rue de l'Aqueduc dans le 10e arrondissement, où seul le premier étage est un trompe-l'œil pour cacher une bouche d'aération, mais le reste de l'immeuble est occupé. Le 54 rue des Petites Écuries, toujours dans le 10e arrondissement, qui cache un poste d'alimentation RATP. Le 44 rue d'Aboukir dans le 2e arrondissement et le 174 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10e, qui cache un puits de ventilation, chacun. Et le 78 rue de la Condamine dans le 17e, qui cache un centre de traitement des données. C'est assez amusant de voir comment Paris se transforme en ville-musée ou décors de cinéma pour cacher les vilaines structures que créent les transports en commun, car Paris est avant tout une ville qui a un quotidien.
Eh bien, merci Maxime, et on se voit bientôt à deux pas dans le 145 rue Lafayette, qui, je tiens à préciser, est ma rue préférée de Paris. Et c'est pas une blague.
Pourquoi ?
J'aime bien en fait la rue Lafayette déjà parce que c'est tout droit depuis chez moi. Et puis je trouve qu'il y a de l'activité le jour, la nuit, tout le temps. Il y a des entreprises. Tu sais, c'est le long de la 7, tu peux manger, c'est tranquille. Le brunch, le week-end et tout. Et puis le soir aussi, c'est calme et c'est bien animé. T'as pas mal de restos et tout. C'est ma rue préférée. Est-ce que ça vous a donné envie, là, le 145 rue Lafayette ? Mais il y en a d'autres aussi. Hein. 3 rue de l'Aqueduc. Il y a quoi d'autre encore ? 54 rue des Petites Écuries. Hugo.
Bah moi je suis pas un fanboy du métro.
Ah.
Mais j'aime bien quand même les transports en commun.
Mais t'es pas obligé d'aller en métro, tu peux y aller en vélo.
Non,
en
mais
bus,
c'est pour dire quand même l'intérêt d'aller voir tout ça. C'est ouais, quand même. Il y a un intérêt pour moi. Bon, déjà. En mode derrière, c'est un truc lié au métro. Mais je connais pas mal de gens, j'ai des amis en fait, qui aiment bien. Et
heureusement. Je suis
non,
je
mais
très content
j'ai
que
des
tu
amis qui aiment.
Je suis ravi. Ça me rassure.
Ouais, j'ai des doutes pour toi.
Ok. Bref,
j'ai des amis avec qui je vais en parler et avec qui je pourrais facilement aller voir.
Ok, d'accord. Toi, Juliette, est-ce que ça t'a donné envie ?
Est-ce qu'il faut dire oui ?
Non.
Cette émission, c'est de donner son avis.
Moi,
oui,
c'est pour ça que j'ai des doutes.
Non, moi, pas tant.
Non, pas tant que ça. Genre, la façade, ça te dit pas grand chose.
Non, j'aime bien les intérieurs plus que les façades.
Ah, ouais, ouais, ok, je comprends. Mais après, sinon, si t'aimes les bouches d'égout, tu vois, tu peux te mettre.
C'est
comme dans les clips vidéo qui servent à rien, tu sais, des ventilateurs géants, et puis tu es là, comme ça, tu es en l'air pendant 5 minutes.
Ah oui.
Voilà, ça peut être un concept, ça peut être quelque chose. Voilà. Saphir, toi, est-ce que ça t'a donné envie un peu ?
Écoute, j'emmènerai mon date là-bas, j'adore l'instant touch au métro, donc ça pourrait être absolument sympa. Donc,
Non, mais c'est une blague ou c'est réel ?
Non.
J'adore l'honnêteté, c'est ça qui fait cette émission.
Maxime, alors qu'est-ce que tu penses de cette recommandation, de l'avis de cette recommandation ?
Après, ça peut être si le date s'éternise, que tu sais pas quoi dire, tu peux trouver une anecdote. Quoi. Est-ce que tu savais que le 145 rue Lafayette, c'est juste une façade ? En fait, on croit que c'est un immeuble, mais en fait, non.
Eh ben, voilà. Écoute, j'en ai un dans 10 minutes. Peut-être l'occasion. Là.
Mais vous voyez, c'est pour ça, moi j'ai dit, j'emmène mes amis fanboys de métro.
Ah là, c'est un truc de dingue. Non, mais en vrai, par contre, les façades, je sais que dans la ville dans laquelle j'habite, je ne dirai pas où, en fait, les façades sont gardées. Et ensuite, derrière, il y a des nouveaux immeubles qui sont construits juste derrière. Donc, ça permet d'avoir une cohérence un peu patrimoniale. Il y a quelque chose à faire plutôt intéressant. Comment tu as trouvé cette information-là ?
Parce que à une époque, je présentais des quiz dans un bar. Et du coup, je cherchais toujours des anecdotes. Voilà.
Non, mais donc, en fait, c'est trop bien. Mmh. C'est dans l'art. Ça veut dire que là, tu vas nous en ressortir des pleins, quoi.
Ah, plein, oui.
Plein. On a hâte d'entendre tout ça. D'accord. Et donc, t'es passé devant ou pas ?
Je suis passé devant, oui.
Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Elle est moche, cette façade, ou ça va ?
On voit pas la différence. C'est vraiment, elle se noie parmi les autres. Et quand on le sait pas, on ne devine absolument pas que c'est un faux, que c'est juste une façade d'immeuble. Et derrière, il y a rien. Il y a même des rideaux et tout. Il y a la porte. Il y a le numéro, comme normal. Mais quand on la voit comme ça, on pense juste que c'est un immeuble.
Ok, c'est ouf quand même. Et c'est la RATP qui est propriétaire ?
Je suis pas allé jusque là dans les investigations. Je pourrais aller rechercher. Je pense que oui, je pense que ceux qui sont propriétaires, oui.
Ok, d'accord. Bon, bah super. Merci Maxime pour cette recommandation. Merci à vous quatre autour de cette table-là. Ce qui marque en plus la fin de C'est dans l'art. C'est dans l'art, c'est fini pour ce soir. Merci donc à Hugo, Juliette, Maxime et Saphir pour vos chroniques et vos réactions. Merci à Eléa et Joey à la technique. On rappelle que C'est dans l'art, c'est votre nouveau magazine d'actualité culturelle. C'est un dimanche sur 4 à 20h sur la FM 93.9 en DAB+, sur le canal Campus. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter. Retrouvez-nous également sur Instagram, C'est dans l'art, tout attaché, tout collé. Vous retrouverez un peu les coulisses, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait pendant, on va dire, les petites pauses pendant l'émission. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.